Personnellement, je suis réputé pour être un très très mauvais négociateur et y a des anecdotes qui sont assez significatives là-dessus. Je vous en raconte une. On avait avec mon épouse un véhicule qui arrivait en fin de. On avait un leasing et ça arrivait en fin de leasing. Et à la fin du leasing, il faut qu'il y ait un check-up par le garagiste pour voir si on rend le véhicule en bon état. Et alors, j'étais allé voir ce garagiste et il commençait sa liste. Bon, une rayure là, ça fera tant en plus. Un petit choc sous la voiture, ça fera tant en plus. Et puis, la liste, comme ça, s'allongeait de plus en plus. Et puis, tout à coup, la personne s'arrête et me regarde et me dit, mais vous négociez jamais? Et elle était en fait totalement surprise que je ne réagisse pas vraiment à ce qui est en train d'être dit. Il dit, mais, et puis il part dans un grand discours, un monologue tout seul, en disant, en plus, vous venez d'avoir une petite fille, mais si vous négociez pas, on va vous, en gros, vous arnaquer, vous voler de l'argent, etc. À la fin, je suis sorti du garage, j'ai quasiment rien eu à payer. C'était peut-être la meilleure négociation que j'ai jamais réussi de ma vie. Je ferme la parenthèse de cette anecdote. Et oui, en fait, cette tendance naturelle à négocier, on va la retrouver beaucoup. Et ça pose un problème quand effectivement on est face à la parole de Dieu, face à Dieu. Et dans l'histoire que je vais partager ce matin, ce passage de l'évangile qu'on va lire ensemble, on va retrouver un homme qui était justement en train d'essayer de négocier en parlant de vie éternelle, en parlant d'exigence de Dieu. Il était en train d'essayer de négocier avec Jésus. Et c'est l'occasion pour le Seigneur Jésus de lui répondre par la parabole du bon Samaritain. Et j'aimerais qu'on lise ce texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 25. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'est-ce qui est écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu? Et lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu auras la vie éternelle. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, oui, mais qui est mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attrapé par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut ému de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et le recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Et Jésus ajouta, à ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? Et celui qui a été pris, c'est celui qui a été pris de compassion pour lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Alors, quelques commentaires sur ce passage de l'Évangile. C'est intéressant de noter que les circonstances dans lesquelles le Seigneur Jésus va raconter cette parabole du bon Samaritain est en fait au départ une question sur la vie éternelle. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, pose comme question l'enseignant de la loi. Et ça rend d'autant plus important, vous comprenez, la réponse que va donner Jésus. Le Seigneur, comme la personne qui pose la question est un enseignant de la loi, ben, le renvoie à la loi de Dieu qu'il devait connaître. Et d'ailleurs, l'enseignant de la loi va répondre d'une manière tout à fait juste en résumant cette loi de manière très précise et excellente. D'ailleurs, une formulation, un résumé que le Seigneur Jésus lui-même, dans un autre passage de l'Évangile, utilisera. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie et ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire avec un amour parfait, pour Dieu et pour ton prochain. Et le Seigneur Jésus va lui dire, ben, fais cela et tu vivras, c'est-à-dire tu auras la vie éternelle. Alors on comprend parfaitement que le dialogue ne s'arrête pas là et que la réponse donnée par le Seigneur Jésus embête profondément la personne qui a posé la question. Ça pose un problème. Pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est-à-dire montre un amour parfait pour Dieu et pour ton prochain, ben, de manière très honnête. C'est impossible, ni pour lui, ni pour quiconque d'entre nous, d'aimer Dieu et notre prochain de manière parfaite. Et ça, c'est là que rentre en scène la phase de négociation. Et notre tendance naturelle à alors devoir négocier pour essayer de nous justifier. Le texte dit, hein, l'enseignant essaya de se donner raison, c'est-à-dire de se justifier, de trouver un arrangement finalement devant cette réponse radicale du Seigneur qui était « tu veux la vie éternelle, aime Dieu et ton prochain parfaitement ». Dans l'histoire de l'Église, dans notre histoire de l'humanité, combien de nombreuses fois, même dans la compréhension de l'histoire de la justification, même au Moyen-Âge, on a essayé comme ça de négocier. À la fin du Moyen-Âge, l'évolution des conditions du monde social, du monde du commerce, etc., des échanges, des monnaies, etc., on va à un moment fait aussi évoluer la compréhension, ou en tout cas, de comprendre comment on pouvait être justifié, comment on pouvait être sauvé devant Dieu. Dans le haut Moyen-Âge, quand on avait des monnaies, c'était des monnaies réellement en or, qui avaient la valeur du poids de l'or que représentait une monnaie. Et après la guerre des Cent Ans, l'or manquait, puisqu'on l'avait consommé, on va dire, utilisé pendant la guerre. Et pour continuer à permettre l'utilisation des monnaies, on a remplacé les monnaies en or par des monnaies en plomb. Évidemment, la valeur de la monnaie en plomb n'était pas la valeur du plomb, mais la valeur de ce qui était affiché dessus, qui représentait la valeur de l'or en correspondance. On connaît très bien ça parce que nos billets et nos monnaies dans notre temps moderne sont exactement faits de cette manière-là. Et en s'inspirant de ce passage de monnaie en or et monnaie en plomb, certains théologiens avaient amené cette pensée, cette idée que du coup, on pouvait peut-être être justifié devant Dieu comme en faisant une négociation, c'est-à-dire Dieu demandait à l'homme, fais ce que tu peux, fais du mieux que tu peux, présente ta monnaie en plomb devant Dieu, et la grâce de Dieu sera de transformer cette monnaie en plomb en monnaie en or. Les œuvres que tu pourras, en faisant ce que tu peux, que tu auras présenté devant Dieu, Dieu dans sa grâce pourra peut-être accepter de les transformer en or. Vous voyez ici la négociation. Le problème, c'est que la réponse du Seigneur Jésus à ça, c'est que non, la monnaie en plomb ne vaut pas de la monnaie, ne vaut pas de la monnaie en or. Et c'est ce que la parabole du bon samaritain va clairement montrer. Alors, je vous propose de regarder maintenant plus en détail cette réponse du Seigneur dans la parabole du bon samaritain. Et je vous propose de noter 4 points dans cette histoire, dans cette parabole, point que le Seigneur veut enseigner par là. Le premier de ces points est représenté sur l'image qui est apparue normalement sur le diaporama. C'est un cœur qui bave, un cœur qui est pas parfait, un cœur qui est tortueux. Et le premier point qui est pointé par le Seigneur dans cette parabole du bon samaritain, c'est justement de prendre un exemple, comme un exemple à suivre, qui est celui d'un samaritain. Et dans le contexte du premier siècle, il faut savoir que les Juifs et les Samaritains se détestaient. Il y avait beaucoup de raisons à ça. Les Samaritains avaient été un peuple aussi déporté, implanté dans le nord d'Israël. Et ils avaient mélangé dans leur culture socio-religieuse des apports qui venaient de la culture juive et puis d'autres apports extérieurs. En tout état de fait, à l'époque du Seigneur, clairement, les Samaritains et les Juifs se détestaient. Ça ne veut pas dire que l'un était meilleur que l'autre, mais en tout cas, ils se détestaient. Et le Seigneur, en prenant l'exemple, en faisant exprès, alors autant de faisant exprès au bon sens du terme, pour faire ressortir ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme de loi qui posait la question, tu me dis, mais jusqu'où aimer mon prochain ? Qui est mon prochain ? Et je te montre, en te montrant le bon exemple d'un bon samaritain, qu'il y a quelque chose de mauvais, de tordu dans ton cœur, parce qu'en fait, tu as du mal dans ton cœur à aimer ton ennemi. Et on voit que le Seigneur va donner une borne et une limite à cette négociation. Non, tu ne peux pas juste limiter ton amour à juste les gens qui t'aiment, les gens qui sont autour de toi, juste les membres de ton peuple. Mais regarde, il y a quelque chose de tortueux au fond de ton cœur, puisque si je te montre en exemple un ennemi, tu vas avoir du mal à réagir favorablement. Et en montrant l'exemple du prêtre et du lévite qui vont croiser le chemin de celui qui est blessé, qui est laissé quasiment pour mort au bord du chemin, celui qui est dans le besoin, en montrant leur comportement, il va pointer toutes les mauvais aspects de notre propre cœur. En effet, le prêtre et le lévite, et probablement l'homme qui posait la question était probablement lui-même un lévite, connaissent la loi de Dieu, savent que la volonté de Dieu, la loi de Dieu, c'est d'aimer son prochain. Et pourtant, quand ils voient la personne dans le besoin, ils changent de chemin, ils changent de côté, ils passent à côté, ils voient, mais ils ne s'arrêtent pas. Et combien ça pointe sur notre propre cœur et les difficultés de notre propre cœur. Pourquoi ne se sont-ils pas arrêtés? Pourquoi bien souvent dans nos vies, nous ne nous arrêtons pas. Est-ce que c'est une question de pureté, peut-être, pour ce prêtre et ce lévite, peur d'être souillé par quelqu'un qui est blessé, qui est peut-être mort si je transpose un peu à nos vies, est-ce que c'est parce que ces personnes sont peut-être trop peu fréquentables pour nous, ou il y a quelque chose dans lequel on a quelque chose qui nous repousse par rapport à cette catégorie de personnes qui pourtant sont... Que l'on croise et qui sont dans le besoin. Peut-être c'est une question de temps, nous avons un rendez-vous, et puis bien souvent dans la vie, on est pressé, et on a du mal à s'arrêter parce qu'il y a le programme, et parce qu'on a tout un tas de choses à faire. Peut-être on ne s'arrête pas également parce que c'est une question de crainte. Peut-être le prêtre et les lévites ne s'arrêtent pas parce que s'il y a une personne qui s'est fait comme ça agresser sur le bord du chemin, peut-être les brigands sont encore pas loin et je dois plutôt me presser parce que je risque moi-même d'être agressé. Parfois, on n'ose pas prendre des risques. Peut-être on peut considérer le contexte comme étant aussi dangereux. Il y a au fond de nos cœurs des craintes. Oui, notre cœur est handicapé de l'amour. Il est tortueux et la parabole du bon samaritain le montre bien. En opposition à ça, le Seigneur va décrire le comportement du bon samaritain, qui représente un amour qui est parfait, ce cœur un cœur qui est parfait, qui transpire l'amour. Je relèverai que le bon samaritain ne connaît pas l'homme qui est dans le besoin. Tout laisse à croire que la personne qui a été agressée est un juif, et donc normalement c'est un ennemi du samaritain. Et bien, ce bon samaritain va s'approcher de son ennemi. On remarque qu'il s'arrête, il voit, il s'arrête. Il accepte de changer son programme. On voit que sa motivation est quelque chose qui vient du cœur. Il est littéralement pris de compassion, c'est-à-dire pris aux tripes. Il y a quelque chose qui est remué dans ses propres intestins. Quand il voit cette personne, il y a quelque chose qui vient du fond du cœur. Ça, on voit qu'il prend soin aussi de manière efficace. C'est comme s'il avait tout prévu, il y a de l'huile, du vin, c'est comme représentant les médicaments, le soin adapté finalement qui est possible, et il va soigner efficacement cette personne qui est là sur le chemin. On voit aussi qu'il donne sans espoir de retour. La personne agressée n'a plus rien, elle n'a plus d'argent, on lui a tout volé, il n'y a aucun intérêt à l'aider et espérer en retour une quelconque remboursement par exemple. On le voit qu'il paye tout et qui paye même plus encore quand on le voit se comporter avec l'aubergiste. On le voit aussi promettre de prendre des nouvelles et de revenir, et tout porte à croire qu'il le fera. C'est un amour qui s'intéresse, et pas juste un épisode, on passe, on aide, et puis après on oublie et on passe à autre chose. Il va s'intéresser profondément à cette personne. Ici, un amour parfait qui nous est présenté. Et devant cet exemple parfait, ma tête baisse, et combien de fois j'ai manqué la cible et je suis tellement éloigné de cet amour parfait dans mon comportement. Combien de fois j'ai aidé peut-être de manière intéressée, peut-être aidé de manière comme j'ai pu, mais au final un peu inefficacement. Combien de fois, après avoir aidé ou m'intéressé à une personne momentanément, j'ai oublié de prendre des nouvelles. Combien de fois j'ai considéré que c'était plus à l'autre qu'à moi d'aider, que quelqu'un était peut-être beaucoup mieux placé que moi pour aider. Combien de fois je n'ai pas pris le temps de changer mon programme? Combien de fois j'ai limité mon aide par mon orgueil ou peut-être mon avarice et quel écart il y a entre l'amour montré par le bon samaritain et ma propre façon d'aimer mon prochain et de mettre en œuvre cela. La fin de la parabole est très troublante parce que finalement le Seigneur montre cet exemple et répond, je vous rappelle que le contexte est une question sur la vie éternelle et la prétention à la vie éternelle. Et le Seigneur répond, tu prétends à la vie éternelle ? Alors fais comme le bon samaritain. Si on y pense un peu, il y a quelque chose d'extrêmement déstabilisant. Parce que la réponse du Seigneur, c'est sois parfait et tu mériteras la vie éternelle. Et il faut être honnête et reconnaître que c'est complètement mission impossible pour cet homme et pour nous de répondre et de réaliser en fait ce que le Seigneur ici demande. Je suis convaincu que le Seigneur Jésus, en répondant cela à cet homme de loi, le sait très bien que c'est impossible pour cet homme. Et là, je vous propose une toute petite pause. On peut se poser la question, mais pourquoi le Seigneur a répondu ? Pourquoi le Seigneur lui répond de cette manière-là, en lui répondant quelque chose en fait qui, en réalité, si on y réfléchit bien, est quelque chose de très déstabilisant et de complètement impossible. Alors, vous aurez remarqué le début de la conversation. Dans la manière dont l'homme de loi se présente, il se présente avec des prétentions. Il se présente pour piéger le Seigneur Jésus. En aucun cas, il ne reconnaît ses limites, il ne reconnaît son péché, il ne reconnaît son cœur tortueux. Il avance une argumentation en essayant de négocier, mais si je fais quand même jusque-là, est-ce que ce n'est pas suffisamment acceptable ? Il essaie de se défendre avec sa monnaie en plomb, avec ses propres bonnes œuvres. Et là, le Seigneur continue dans son chemin. Si tu veux continuer dans ce chemin de bonnes œuvres, ben, va jusqu'au bout. Pour mériter la vie éternelle, tu dois être parfait. Quelques semaines plus tard, dans le ministère du Seigneur, le Seigneur rencontrera un jeune homme riche où le même type de question va se poser. Le jeune homme riche posera la question aussi, que dois-je faire pour être sauvé ? Et il va argumenter aussi un certain nombre d'éléments que le Seigneur n'a pas contredit d'ailleurs, qu'il fait beaucoup de choses bien et qu'il obéit à beaucoup de choses bien dans sa loi. Dans la loi, par rapport à la loi. Mais le Seigneur va pointer du doigt encore une défaillance du cœur. Ce jeune homme riche était attaché aussi à son argent et c'était vraiment quelque chose de trop difficile pour lui d'abandonner cet argent devant Dieu. Et oui, il y avait quelque chose encore de complètement tordu. Et la réponse du Seigneur va complètement déstabiliser non seulement le jeune homme, mais aussi la foule qui est en train d'écouter. Et les auditeurs vont finir par dire, mais après cette scène, mais à la fin, mais qui peut être sauvé ? Et c'est quelque chose de... Il y a un moment, ce qui est demandé là est impossible. Les gens qui écoutaient la parabole du bon samaritain et la réponse du Seigneur Jésus, dans le contexte de la parabole du bon samaritain, auraient pu aussi poser la même question, mais à la fin, qui peut être sauvé ? Et le Seigneur répondra alors, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, nous devons reconnaître qu'il est impossible pour nous d'atteindre aux exigences parfaites de la loi de Dieu et qu'en aucun cas, avec nos propres bonnes œuvres, nous pouvons mériter quoi que ce soit de la vie éternelle. Et la parabole du bon samaritain pointe ultimement en fait vers cette vérité. Et elle va pointer vers une solution, vers le sauveur. Cette parabole du bon samaritain pointe aussi en direction d'un sauveur. Ce bon samaritain va nous parler avant tout, et finalement derrière de notre Sauveur. Et voilà la troisième image qui s'affiche. Alors vous, cette parabole du bon samaritain nous parle de Dieu dans son amour qui va nous porter secours. Vous pourriez m'interpeller et me dire, mais remarquez que tu exagères. Là, le Seigneur montre un parfait exemple de bonne moralité, de choses qui sont belles et qui sont dans la volonté de Dieu que nous devons suivre. Et vous aurez en partie raison Oui, quand on regarde en première lecture de cette parabole du bon samaritain, on est vraiment encouragé à prendre l'exemple du bon samaritain. Pourtant, plusieurs indices, et j'en relèverai uniquement deux, pointent aussi du doigt vers l'identité de ce bon samaritain avec notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Je relèverai juste deux indices. Vous avez peut-être remarqué une bizarrerie dans la dernière question de Jésus. Le Seigneur pose la question, lequel des trois personnes que l'on a vues dans la parabole s'est montré le prochain de l'homme victime des brigands? Simplement, je vous rappelle que la question de départ, c'était « Qui est mon prochain ?» Et je ne pense pas qu'en posant cette question, l'homme de loi se voyait lui-même comme celui qui avait besoin de secours, mais plutôt à qui il devait porter secours. Mais la question de Jésus, à la fin de la parabole, n'est pas celle-là, elle est à l'envers. Jésus demande en fait « Qui est celui qui porte secours parmi les trois personnes ?» Et en faisant cette question à l'envers, il pointe en fait du doigt vers l'identification de celui qui porte secours, de celui qui est le sauveur. Et la pointe est vers l'identité du bon samaritain comme étant le sauveur. Deuxième indice, dans ce qui est en train de se passer dans le ministère du Seigneur Jésus, le Seigneur est en fait en train, lorsqu'il est en train de parler avec cet homme de loi, il est en réalité en chemin. Il est en chemin pour aller vers Jérusalem. On est au chapitre 10 et au chapitre 9, juste avant, on voit que le Seigneur, en fait, avait de manière résolue décidé de se rendre à Jérusalem. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Et c'est juste un chapitre avant. En fait, c'est comme s'il était en train de monter à Jérusalem par le chemin qu'il va parcourir pour monter à Jérusalem, c'est-à-dire allant de Jéricho à Jérusalem. C'est un chemin d'environ 25 km avec, qui monte ou qui descend beaucoup, suivant de quel côté on le regarde, avec quasiment 1 km de dénivelé. L'homme qui avait été attaqué dans la parabole par les brigands, les prêtres et les lévites, tous sont, ils semblent, prendre le chemin de la descente de Jérusalem, la ville de Dieu, vers la ville de Jéricho, la ville maudite. En réalité, ils vont comme tous dans un mauvais sens. Et le bon samaritain, lui, il arrive comme un petit peu de nulle part. C'est absolument pas le chemin le plus naturel pour aller de Jérusalem à Samarie. Pas du tout. Et en fait, on a l'impression que ce bon samaritain est en chemin, en train de monter dans le sens inverse en allant vers Jérusalem. C'est le chemin du Seigneur, le chemin qui va vers Jérusalem. La petite scénette suivante après le bon samaritain, ça se passe dans la maison de Marthe et Marie, à Béthanie. Et Béthanie est précisément localisée en haut du chemin qui vient de Jéricho vers Jérusalem. On est dans ce sens du chemin. Le Seigneur va vers Jérusalem. Il va vers la croix. Il va vers l'endroit où il allait porter toutes nos blessures, tous nos péchés, tous nos besoins. Et il allait vers ce sacrifice de la croix, là où il allait accomplir cette œuvre de salut et où il allait être possible de nous soigner. Et c'est bien par la croix que le Seigneur, par ce magnifique projet qu'est l'Évangile et bonne nouvelle qu'est l'Évangile de cette œuvre du Seigneur à la croix, que le Seigneur veut soigner nos cœurs. Et on a une magnifique image dans ce bon samaritain, d'un Seigneur qui vient nous chercher, nous, les blessés du chemin, et pour réparer nos cœurs. Vous voyez une quatrième image qui s'affiche et une dernière image sur la diapositive. Est-ce que du coup cette parabole du bon samaritain nous dit qu'il ne faut donc nous n'avons pas à aimer notre prochain? Et je dirais comme Paul, loin de là, qu'ainsi n'advienne, bien sûr que non. Mais cette parabole du bon samaritain nous dit il faut d'abord que ton cœur, Romaric, que notre cœur soit d'abord transformé, soit d'abord soigné par le Seigneur lui-même, par le parfait bon samaritain, pour aimer d'une manière qui soit à la gloire de Dieu, mon prochain. C'est quelque chose qui se passe à la fois dans la bonne nouvelle de l'Évangile, quand j'ai décidé de me tourner, on l'a entendu dans les témoignages, j'ai décidé de me tourner radicalement vers Dieu. Mais ça se passe tout au long de notre vie avec Dieu, dans lequel on a besoin que quotidiennement, le Seigneur, par l'Évangile, transforme notre cœur. Je citerai ce verset de l'Épître de Jean. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés sa colère contre nous. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et donc ainsi, nous devons aussi aimer notre prochain. Que vraiment, cet encouragement à aimer le prochain, nous puissions le puiser dans la transformation au quotidien de nos cœurs par le Seigneur Jésus. N'essayons pas de le faire juste par nos propres forces pour obéir à un commandement dans lequel nous n'arriverons jamais à la perfection attendue de Dieu. Mais puisons nos forces dans cette transformation quotidienne, dans notre relation personnelle avec le Seigneur qui va permettre de nous donner toute motivation pour avancer avec ça. Alors, je crois que j'aimerais terminer par quelque chose de totalement concret et le temps va me manquer pour développer ça de manière très approfondie, mais Michael m'a dit que vous aviez des groupes de maison dans lesquels vous repreniez un petit peu les messages du dimanche et pour essayer d'y creuser les aspects pratiques. Et j'aimerais vous laisser avec quelques questions pratiques que je vous encourage à travailler en groupe et à réfléchir en groupe. Je ne connais pas votre contexte très précisément de contexte d'église, et encore moins votre contexte personnel à chacun d'entre vous. Mais je pense que vous êtes les personnes les plus adaptées, effectivement les mieux placées pour répondre concrètement à qu'est-ce que ça veut dire, comment appliquer le message que l'on entend, qu'on vient d'entendre dans la parabole du bon samaritain. Je crois que le premier point en termes d'application à réfléchir, c'est de réaliser à quel point mon cœur a besoin d'être transformé pour aimer mon prochain. C'est comme ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est qu'il y a besoin d'abord de transformation de ce cœur. Et regardons chacun de nos cœurs, où on en est. Qu'est-ce qui sont les limites? Quelles sont les barrières? Quels sont les grillages qui m'empêchent d'aller vers mon prochain? Peut-être des questions où ma conception de l'argent, peut-être, qui est quelque chose qui me limite. Peut-être c'est une question de mon emploi du temps qui a des... qui sont peut-être pas bien placés, que nous confessions devant Dieu tout ce qui m'empêche d'aimer mon prochain et de les porter à la croix du Christ parce qu'on a besoin d'une transformation. Alors, la deuxième question très pratique, c'est bien de dire que le cœur a besoin d'être transformé, mais comment le faire en concret? Comment ça peut se passer? Bien sûr, si vous ne l'avez jamais fait dans votre vie, je vous encourage à tourner vos vies entières vers Dieu. Vous avez peut-être des problèmes dans la vie, vous n'avez peut-être jamais fait ce pas de vous réconcilier avec votre Seigneur et votre Dieu créateur. Et bien sûr, c'est une étape fondamentale à faire dans la vie. Mais peut-être vous avez déjà fait ce pas depuis déjà de nombreuses années et vous avancez avec Dieu, mais vous pouvez réaliser combien vous avez encore besoin de progresser dans le chemin avec Dieu. Concrètement, réfléchissez à des choses concrètes. Est-ce que vous passez du temps dans votre journée à faire une pause avec Dieu, de vous laisser renouveler par peut-être la lecture de la parole de Dieu, peut-être d'un temps de prière avant de partir au boulot ou dans vos différentes activités dans lesquelles vous allez rencontrer votre prochain en début de chaque journée? Je vous laisse répondre pour les aspects pratiques, pour le contextualiser dans vos vies personnelles. Et puis, encouragé par cela, fondé sur cette clé de la transformation du cœur par l'Évangile, répondre à cette question, comment individuellement et collectivement pouvons-nous mettre en œuvre cet amour pour notre prochain, dans notre église, dans notre ville, dans votre ville de Cré? Comment concrètement cela peut se traduire? Comment cette inspiration du bon samaritain peut changer les choses dans votre église, dans votre ville? Et je vous laisse aussi y associer tous les aspects pratiques que cela pourra donner dans votre contexte. Pour terminer, j'aimerais juste prier. Oh Seigneur, on veut te confesser combien souvent on manque la cible, combien notre cœur est tortueux et combien de fois on manque d'amour pour notre prochain. Merci Seigneur parce que alors qu'on était sur le chemin, blessé, dépouillé et sans espoir de nous en sortir nous-mêmes, tu es venu nous chercher. Tu as été pour nous ce parfait bon samaritain qui nous a... qui a passé nos plaies, qui a soigné, Seigneur. Et tout ça par ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu es venu chercher des gens qui avaient tant besoin d'être secourus. Merci pour cet immense secours. Merci parce que ce cœur tortueux, tu veux le réparer, tu veux le soigner, tu veux le transformer. Nos cœurs de pierre, tu veux les transformer en cœurs de chair et que ton amour puisse déborder aussi à travers nous. Seigneur, que par ton esprit, tu puisses nous aider dans notre quotidien à mettre en œuvre cet amour, ton amour, et qui puisse être déversé vers notre prochain, vers nos contemporains, les gens que l'on rencontre sur notre chemin, nos collègues de boulot, nos voisins, nos frères et sœurs dans l'Église, qui puissent ressentir cet amour qui vient de toi. On te demande ton aide, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.